Chers amis, nous reprenons donc la lecture de la lettre du week-end. Nous avons du courrier même le dimanche, chapitre 3 de l'Apocalypse, versets 7 à 13, écrits à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Philadelphie, nous l'avons dit ce matin, une église faible mais forte. Tout comme pour Smyrne, nous l'avions dit, une église pauvre mais riche, à l'inverse de Laodicée. Une église riche, mais pauvre. Le regard de Dieu est si souvent totalement différent du nôtre. Nous avons commencé à nous pencher sur ce diagnostic divin tel qu'il figure au verset 8, n'est-ce pas ? Tu as peu de puissance, et nous avons parlé de cette église pauvre, fragile, faible, méprisable, sans membres influents et fortunés. Mais Église, versets 8b et 10a, Église qui a gardé la parole du Seigneur. Tu as gardé ma parole. Verset 10 aussi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Une église donc, avons-nous dit ce matin, centrée sur la parole du Seigneur, attachée, obéissante à sa parole, une église pauvre en ressources d'en bas, mais riche en ressources d'en haut. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Et rappelez-vous cette courte citation, quand Dieu veut déplacer une montagne, ce n'est pas à l'aide d'une barre de fer, mais en se servant d'un vermisseau. Le fait est que nous allons fondre les fortes. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il n'a pas envoyé une armée comme nous l'aurions fait, mais ni un orateur, mais il a envoyé un homme qui avait vécu 40 ans au désert, qui avait la langue embarrassée. C'est de faiblesse que Dieu a besoin. Nul n'est trop petit quand Dieu le prend en main. C'est d'ailleurs ce que Moïse devait apprendre, n'est-ce pas? Puisque lorsque Dieu, dans le désert, auprès de son troupeau, lui a confié cette mission de repartir vers l'Égypte pour être le libérateur sous l'autorité divine du peuple d'Israël, vous savez, toute l'argumentation que Moïse a présentée. Il était loin de sa mentalité de 40 ans auparavant, avec ses lettres égyptiennes, ses doctorats, sa position princière. Il n'avait qu'une chose à dire, mais je suis trop faible, jusqu'à ce que Dieu lui dise, ben écoute, finalement, ça m'arrange que tu sois faible, enfin je peux me servir de toi. Celui qui est l'auteur de cette citation lue ce matin et répétée à l'instant, quand Dieu veut déplacer une muraille, est un homme de Dieu qui a été absolument percutant, l'un des plus célèbres prédicateurs américains du 19e siècle, l'évangéliste et revivaliste Moody. Et un reporter qui était chargé de suivre ses campagnes d'évangélisation et de découvrir le secret de sa puissance déclara: « Je ne trouve rien chez Moody qui explique son œuvre merveilleuse. » Il faut dire que l'arrière-plan humain d'éducation de Moody laissait quelque peu à désirer. Les nombreuses lettres que l'on possède de cet homme de Dieu sont émaillées de fautes, mais aujourd'hui on n'en tient plus compte, n'est-ce pas? L'orthographe, c'est devenu tellement secondaire, paraît-il. Physiquement, il n'avait rien d'attrayant, sa voix était nasillarde, bref, il avait un tas de défauts. Et Moody, de répondre à ce reporter, n'est-ce pas, qui disait « Je ne trouve rien chez Moody qui explique son œuvre merveilleuse », Moody de répondre « Mais c'est évident, c'est l'œuvre de Dieu et non la mienne. C'est évident, c'est l'œuvre de Dieu et non la mienne. » Et un commentateur évoquant le travail spirituel de Moody, qui n'avait d'ailleurs reçu aucune formation universitaire, il avait un manque d'instruction évident, un aspect physique déplaisant. cet homme dit, n'est-ce pas, que c'était là-dessus qu'il s'appuyait, sur sa faiblesse, pour demander à Dieu d'agir de manière extrêmement puissante. Sa faiblesse était un argument en sa faveur, qui plaidait en sa faveur, parce qu'il voulait absolument s'appuyer sur le Dieu vivant. Chapitre 3, verset 8 encore, il est dit: « Tu n'as pas renié mon nom. » Tu n'as pas renié mon nom. C'est une église, Philadelphie, qui a notamment gardé le commandement de persévérer, quoi qu'il puisse lui en coûter. On l'a lu tout à l'heure, tu as gardé la parole de la persévérance en moi, de la persévérance en Christ. Une église persévérante. Vous savez qu'un des plus gros problèmes, ça l'était dans le passé, mais peut-être beaucoup plus aujourd'hui, du croyant qui grandit en ce moment, qui s'est converti ces dernières années, celui de la persévérance. Nous vivons dans un monde qui a tellement relégué à l'arrière-plan et aux oubliettes cette question de la constance, de la ténacité, de la persévérance dans l'effort, que les jeunes croyants ont d'énormes problèmes avec cette question de la persévérance. Or, dans les Écritures, la persévérance occupe une place absolument fondamentale. Voilà une Église qui est persévérante dans l'adversité, dans le rejet, dans le mépris, qui connaît l'opposition implacable de la synagogue de Satan. Vous avez remarqué qu'elle est déjà présente à Smyrne, au chapitre 2, verset 9, hein. Je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ces juifs inconverti, ennemi de l'Évangile, et qui considère l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Philadelphie, comme une secte dangereuse. Parce qu'ils ont peur, ces Juifs, que les remous provoqués par le radicalisme de cette Église fidèle au Seigneur leur provoquent des problèmes face aux autorités, n'est-ce pas ? Là encore, c'est un schéma que nous retrouvons de plus en plus aujourd'hui, où si nous sommes fidèles dans notre témoignage pour Christ, il est évident que nous devenons gênants pour des chrétiens rangés qui aiment se couler dans le moule de la société et ne pas avoir des problèmes avec les autorités. Et nous devrions réaliser que peut-être dans les proches temps qui viennent, les plus gros problèmes, nous ne les aurons pas, comme nous serions tentés de le croire, avec les autorités profanes, mais avec le milieu religieux, avec ceux justement qui sont de plus en plus tentés de nous considérer comme des marginaux, n'est-ce pas, comme des intégristes, même si nous voulons vivre de l'amour du Seigneur et avoir un respect profond pour ceux qui nous entourent en tant que personnes, c'est insupportable. Nous sommes des empêcheurs de tourner en rond et des empêcheurs pour d'autres croyants, entre guillemets, de vivre une vie qui soit, selon eux, paisible. J'ai retenu, j'essaye de le retrouver, ici ce beau témoignage d'un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur depuis 1994. C'est donc un Iranien qui a donné son témoignage devant un tribunal islamique en Iran à cause de sa foi. Il a été libéré et puis 6 mois plus tard, on l'a découvert assassiné. Et voilà une partie de son témoignage devant ce tribunal islamique. Je ne craindrai pas d'avoir le monde entier contre moi, pourvu que je sache que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, vous rappelez ce qu'on a dit hier, l'équivalent dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse, où cette expression figure 10 fois, de l'Éternel des armées, dans l'Ancien Testament, le Dieu Tout-Puissant. Donc, pourvu que je sache que le Dieu Tout-Puissant est avec moi et que j'ai l'approbation du Dieu de gloire, mes accusateurs me disent de revenir. Mais à qui puis-je revenir en quittant les bras de mon Dieu ? Est-il juste d'accepter ce que le monde m'offre au lieu d'obéir à Dieu ? J'ai marché avec le Dieu des miracles pendant 45 ans. Sa bonté envers moi est comme une ombre qui me protège. Je lui dois tout. Je remercie mon Dieu qui m'a jugé digne d'être ici en prison depuis plus de 8 ans à cause de ma foi. Je remercie mes frères et sœurs chrétiens qui m'ont soutenu par leurs prières afin que la victoire appartienne au Seigneur. Plus la nuit est noire, plus l'aube est proche, plus les nuages sont sombres, plus les pluies qui donnent la vie sont abondantes, plus le chemin est étroit, plus le secours de Dieu est sans limite. Bien que les vagues de la mer soient de plus en plus hautes, cela ne peut troubler le calme des profondeurs. Bien que la tempête soit violente, elle ne peut déplacer les montagnes. Celui qui vit à l'ombre du Tout-Puissant ne sera pas ébranlé. C'est beau. Ça, c'est, je dirais, un témoignage de la fibre de l'Église de Philadelphie. Hein? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu n'as pas renié mon nom, avons-nous lu. Une Église qui a refusé toute forme de compromis dans le but d'être mieux considéré pour que cesse le mépris du monde, le mépris des religions officielles. Et comme l'a écrit un frère bien regretté, André Lamorte, à cause de cela, des portes sans doute lui sont fermées. Elle n'a pas l'audience des autorités. les chairs célèbres, les postes enviés, la voix de la radio officielle. On ne parle pas d'elle dans la presse, de ses assemblées synodales, de ses réformes de structure ou de sa stratégie. Mais elle est très très chère au cœur de Dieu, cette Église faible mais forte. Quand j'ai retravaillé tout cela, j'ai assez rapidement pensé à un témoignage que j'ai entendu durant notre temps de séjour au Canada. Et ce n'est pas un témoignage de troisième, quatrième ou de cinquième main, donc qui a pu être déformé X fois avant d'arriver jusqu'à mes oreilles. Il faut toujours être prudent avec les témoignages, hein, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je travaille avec des fiches. Parce que j'ai remarqué que quand vous ne travaillez pas avec un support écrit, avec le temps, l'histoire que vous racontez, vous la transformez. Et on devient menteur, hein. J'ai pris pour habitude de toujours revenir à un support écrit pour être sûr de ne pas commencer à broder, à raconter n'importe quoi. Et là, c'est donc un témoignage de première main d'un membre engagé d'une église de la banlieue de Montréal qui donc a assisté à une rencontre au cours de laquelle un croyant très engagé, serviteur de Dieu à New York, racontait un événement très particulier vécu dans le quartier de Manhattan dont on a tant parlé, hein, au sujet de ces deux tours le 11 septembre. Et j'ai aussitôt noté cette histoire parce que je trouve que c'est encore du Philadelphie de notre époque, n'est-ce pas ? Il y a bien des années, presque à l'ombre de ces deux grandes tours, un serviteur de Dieu et quelques membres d'une petite église, je suppose, à l'époque, ont décidé d'acheter une certaine surface au sol. Je le dis de cette manière parce que cela appartient à la loi américaine, n'est-ce pas ? Où vous achetez une surface sur laquelle vous construisez un édifice. S'il a un étage, vous avez le volume d'un étage. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous n'avez pas la surface qui est au-dessus. Elle est vide, mais cette surface qui est vide et ce volume, en quelque sorte, qui monte vers le ciel, il est la propriété de celui qui veut l'acheter. Vous voyez ? Chez nous, ben, si j'ai une maison d'un étage avec son toit, personne ne va pouvoir construire au-dessus. Hein. Théoriquement, ce qui est au-dessus, en quelque sorte, est à moi. Hein. Voilà. Mais aux États-Unis, c'est pas comme ça. Et c'est ce qui rend cette histoire particulièrement intéressante. C'est donc ils ont décidé, parce qu'ils y voyaient un appel de Dieu très clair, à rendre un témoignage vivant à Jésus-Christ, dans ce quartier très très important et très dense de Manhattan. Donc ils ont acheté et ils ont construit donc une modeste chapelle, hein, au sol, peut-être sur un étage, certainement. Et puis voilà que en l'an 2000, donc très récemment, un promoteur vient frappé à la porte chez le pasteur, peut-être habitait-il d'ailleurs même dans cet immeuble, et il lui dit, voilà, nous venons vous annoncer que nous avons l'intention, c'est même quelque chose qui va se concrétiser comme on le fait là-bas, dans les jours qui viennent. Nous avons l'intention, là, maintenant, ces jours-ci, non seulement d'acheter le volume qui est au-dessus de chez vous, mais de construire 60 étages au-dessus de votre église. Et tout est prêt. Les ouvriers, les entreprises, ça va démarrer. Bien entendu, vous imaginez que le promoteur avait une idée derrière la tête. Et il souhaitait... bien sûr. Bon, bien entendu, c'était pas du bluff ce qu'il disait. C'était bien un projet qui allait s'accomplir. Mais ce que souhaitait le promoteur, c'était bien sûr que l'Église déguerpisse. Et à ce moment-là, il a ajouté ceci, c'est que, voilà, écoutez, on vous propose une affaire en or. On vous propose de racheter votre chapelle. Et on va acheter votre chapelle, tenez-vous bien, pour 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, moi j'ai fait des petits calculs, 1 dollar à 7 francs, bon, je parle en francs, excusez-moi, hein, parce que moi je n'arrive pas à me convertir dans ce domaine. Il a été plus facile de me convertir à Jésus-Christ que, franchement, au dollar ça fait donc 210 millions de francs. 210 millions de francs. J'ai quand même mis 32 millions d'euros à côté. Vous voyez que j'essaye de vivre dans mon temps. Si le dollar est à 7 francs 30, c'est 219 millions de francs, 32 à 34 millions d'euros. Vous vous rendez compte de la somme? Et on vous prend la chapelle, voilà la somme qu'on vous refile. Et tout de suite, hein, c'était... Le pasteur a regardé le promoteur, il lui a dit, écoutez... J'ai besoin de rencontrer le conseil de mon église. Et nous avons besoin de demander quelle est la volonté de Dieu. Ça n'a pas beaucoup plu au promoteur, mais enfin, que voulez-vous qu'il fasse? Donc ils se sont donné rendez-vous dans les heures qui suivaient, puisque tout était sur le point d'être scellé. Et quelques heures plus tard, le pasteur revoit le promoteur et lui dit non. Désolé. C'est Dieu qui nous a placés là. Et nous avons la certitude que nous sommes dans la volonté de Dieu en restant ici pour continuer à rendre témoignage à Jésus-Christ dans ce quartier. Vous imaginez l'esprit du promoteur devant une telle déclaration, n'est-ce pas? Toujours est-il, et c'est là que je voulais en venir, que le 11 septembre 2001, eh bien, l'Église a été épargnée. Elle est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est un petit bâtiment, n'est-ce pas? Par rapport à toutes les tours. Et s'il y avait eu un immense bâtiment à la place, vous imaginez ce qui se serait passé, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'esprit de Philadelphie. On ne marchande pas les valeurs spirituelles. Petit, méprisé, tout juste bon à déguerpir pour peut-être aller s'installer dans des bâtiments florissants, magnifiques, extraordinaires, mais il n'y aurait plus de croix plantées juste dans ce secteur. On choisit simplement, humblement, malgré le mépris de ceux qui ont du fric, on choisit de rester à la place où Dieu nous a mis. Moi, je dois dire que j'ai été très touché en entendant cette histoire. Surtout... sur le sol américain et dans ce secteur de New York. Cela m'a profondément encouragé. Alors ensuite, viennent trois puissants encouragements du Fils de Dieu. Chapitre 3, verset 8, dans la deuxième partie, on a préparé maintenant la compréhension de cette déclaration longuement depuis hier après-midi. Parce que tu n'as pas renié mon nom, hein, j'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je signale ici d'ailleurs que le texte grec est un peu différent. Littéralement, j'ai donné devant toi une porte ouverte. J'ai donné. Et le terme que l'on retrouve au verset 9, « Je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. » Dieu donne. Dieu se plaît à donner à cette église. Et c'est lui qui l'enrichit, n'est-ce pas? Elle est pauvre sur un plan matériel, elle est méprisée, elle n'a pas un tas de décorations, elle n'a pas un passé prestigieux, etc. Et Dieu lui donne. J'ai donné une porte ouverte. Et ce qui est aussi intéressant et qui n'apparaît pas dans le français, puis on peut le comprendre parce que parfois ça modifierait trop la structure de la phrase et ça deviendrait lourd à lire, mais en réalité, cette petite phrase, j'ai donné devant toi une porte ouverte, dans le texte grec, elle n'est pas à la queue. elle est en tête. C'est-à-dire que la phrase commence ainsi, n'est-ce pas ? Je connais tes œuvres, j'ai donné devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas renié mon nom. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Dieu dit de manière très claire, c'est à cause de ton attitude que je suis généreux avec toi. J'ai un plaisir fou à te donner, précisément parce que tu ne te confies pas dans la puissance, n'est-ce pas ? Parce que tu gardes ma parole, parce que tu n'as pas renié mon nom. Je suis avec toi. C'est une autre manière de dire la même chose. Le Fils de Dieu, le Seigneur, le souverain aux pouvoirs illimités, le chef de l'Église, premièrement, favorise l'exercice du mandat missionnaire de cette Église. Il lui ouvre une porte pour le témoignage. C'est lui qui le fait. Et je crois que c'est important que nous sachions que c'est Dieu qui nous ouvre une porte pour notre témoignage, mais qu'il s'appuie pour cela sur notre désir de marcher avec lui. Moi, je suis persuadé qu'il y a une quantité industrielle de grandes églises extrêmement bien organisées, extrêmement puissantes, qui roulent sur les fonds. Dieu leur a fermé la porte. Parce que ça ne suffit pas d'avoir les moyens. Ça ne suffit pas d'avoir le prestige. Ça ne suffit pas d'avoir des entrées humaines auprès de telle ou telle autorité parce qu'on a une belle carte de visite ou je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui ouvre les portes, n'est-ce pas ? Et Dieu n'ouvre les portes que là où il rencontre un terrain d'humble fidélité. Ça modifie complètement la mentalité actuelle, n'est-ce pas ? Toutes les conceptions actuelles et qui se développent de plus en plus, où on dit « Ouh, si un tel vient à Jésus-Christ, hein, si cet avocat se convertit, rendez-vous compte, la puissance que nous aurons à notre disposition parce qu'il va pénétrer dans le milieu du barreau, si ce juge... » Vous voyez, nous avons des mentalités qui ne sont pas justes. Dieu nous demande simplement d'être fidèles. Si nous sommes fidèles, si nous nous appuyons sur la puissance de sa parole, si nous gardons son nom, si nous persévérons en Christ, alors il ouvre des portes, il offre des occasions pour l'annonce de l'Évangile. Dans cette ville, nous l'avons vu ce matin, qui était chargée d'une mission d'hellénisation des régions sauvages de la Phrygie, où elle avait été tenue en échec, eh bien, Dieu dit, « Toi, petite église méprisée, tu ne seras pas tenue en échec. » Les autorités de la ville de Philadelphie, les milieux culturels de la ville de Philadelphie ont été mises en échec. Mais toi, petite église, tu ne seras pas mise en échec parce que moi, je me charge, moi, le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, je me charge de t'ouvrir une porte, de t'offrir les occasions pour annoncer l'Évangile. Je t'offre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ta mission. J'ouvre les oreilles, je rends les cœurs avides de recevoir, je crée les bonnes dispositions, je suscite l'intérêt des gens. Voilà tout ce que Dieu fait. Mes amis, moi, ça m'encourage. Rendez-vous compte, si la croix de Jésus-Christ est plantée ici, dans ce secteur de l'Ébizé, à Caen, dans nos villes, mais avec cette mentalité-là, on dit un coup de Seigneur, ouvre-nous des portes. Tu es celui qui ouvre. Et quand tu ouvres vraiment. Tu es celui qui ferme. Quand tu fermes vraiment. Ce ne sont pas les hommes qui nous entourent qui peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est toi qui as les clés entre tes mains. Et Seigneur, nous voulons être fidèles s'il faut qu'on persévère ensemble dans la prière. Pendant des mois et des mois et des mois, encore le petit noyau que nous sommes, nous voulons être fidèles et tu vas nous ouvrir une porte. À l'heure de ton choix. La présence du Seigneur garantit le succès. Là où la cité a échoué dans sa mission auprès des Phrygiens, l'église de Philadelphie, pourtant faible, n'échouera pas, car Dieu est avec elle dans son combat missionnaire. C'est un des grands directeurs de l'ex-mission intérieure de la Chine qui a écrit ceci, « La faiblesse humaine fournit la meilleure toile de fond au déploiement de la puissance divine. » Alors quand on parle de l'ex-mission intérieure de la Chine, on ne peut qu'évoquer Hudson Taylor, qui a été le fondateur, n'est-ce pas, de cette mission, et qui, en janvier 1866, au tout début de l'existence de cette mission intérieure de la Chine, et je crois que c'est une quinzaine d'années à peu près après la conversion de Spurgeon, dont on va parler dans un instant, Hudson Taylor a exposé sa philosophie de la faiblesse dans le premier bulletin de cette toute nouvelle mission. Il écrit ceci. Nous pouvons adopter le langage de l'apôtre Paul et dire « Qui est suffisant pour ces choses ?» Notre faiblesse est à son comble. Nous devrions être accablés par l'immensité de la tâche qui est devant nous et le poids de la responsabilité qui est sur nous. Si ce n'était que notre faiblesse et notre incapacité même nous donnent un droit spécial à l'accomplissement de sa promesse qui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Hudson Taylor, d'ajouter, le Seigneur lui-même a choisi ses instruments d'une manière remarquable. Les plus insignifiants sont capables dans sa main de servir à la louange de sa gloire. Il en est comme dans la nature. Il y a des chênes beaux et vigoureux. Et à côté, des petites fleurs des prés, les uns et les autres placés là par sa main. Moi-même, par exemple, je ne suis pas spécialement doué, je suis timide de nature. Mais mon Dieu et Père miséricordieux s'est penché sur moi pendant ma jeunesse. Il m'a fortifié dans la foi, moi qui étais faible. Il m'a appris à me reposer sur lui et même à le prier pour des petites choses dans lesquelles un autre se sentirait capable de se tirer d'affaire tout seul. Un de ses biographes s'est plu à souligner le contraste saisissant entre l'instrument choisi par Dieu, un homme pauvre, sans influence, sans préparation spéciale, et l'envergure de la tâche qu'il exerça comme fondateur et directeur d'une organisation mondiale englobant des missionnaires de toutes les dénominations évangéliques et de tous les pays. Et à la lecture de sa volumineuse correspondance, on perçoit l'homme très conscient de ses limitations et de sa fragilité, insistant d'autant plus sur la fidélité de Dieu qu'il se sent faible, incapable, impuissant devant l'immensité de la tâche à accomplir et les montagnes de difficultés à surmonter. Ça, c'est un extrait de mon livre qui va ressortir, fidèle quoi qu'il en coûte. Vous voyez, je me relis même, alors c'est bon. Je pense à ce qui s'est passé pendant l'une des guerres qui, au XVIe siècle, ont opposé les Français aux Espagnols. Ceux-ci étaient en train d'assiéger un camp français dans le nord du pays, et ils firent parvenir à l'amiral de Coligny, commandant le camp, le message suivant « Rendez-vous, nous sommes plus nombreux que vous !» Et Coligny décrit sur un bout de papier la réponse suivante « Nous rendre ? Jamais ! Nous avons un roi avec nous. Nous avons un roi avec nous. » Je pense au témoignage du fameux missionnaire David Livingstone, n'est-ce pas, quand il partait pour prendre le bateau, il était accompagné d'un certain nombre d'amis qui l'aimaient profondément, qui se faisaient beaucoup de soucis pour sa sécurité dans ce pays si éloigné vers lequel il partait. Et l'un d'entre eux le supplia de ne pas partir. Et comme Livingstone était convaincu qu'il était dans la volonté de Dieu, il ouvrit sa Bible. Et il lut à son ami inquiet ces paroles de Jésus. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il se tourne vers son interlocuteur, vers son ami, et lui dit « Voyez-vous, cela, mon ami, c'est la parole d'un gentleman. Alors, disons-nous au revoir. » Bien des années plus tard, Livingstone est à l'université, oui, de Glasgow. Et il est amaigri, affaibli par les maladies tropicales. Son bras gauche pend lamentablement parce qu'il a été partiellement broyé sous les crocs d'un lion. Et pourtant, avec enthousiasme, il interpelle son auditoire. Et il lui dit à un moment donné ceci. « Voulez-vous que je vous dise ce qui m'a toujours soutenu durant ces années passées, au milieu des peuplades souvent hostiles ? C'est la présence du Seigneur Jésus promise aux siens il y a 19 siècles. Je suis avec vous tous les jours. » Vous savez qu'on a retrouvé David Livingstone agenouillé, juste à côté de son lit de camp, sous sa hutte. Il était mort pendant la prière, en Afrique. Un homme faible, mais qui comptait sur la puissance de Dieu. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Je pense à la fameuse famille de Corrie ten Boom, n'est-ce pas ? Cette femme de Dieu arrêtée donc avec les siens par la Gestapo pour avoir caché des Juifs. Vous connaissez tous, je pense, cette histoire impressionnante dans l'enfer de Ravensbrück. Et tous les siens sont montés dans le camion qui devait les conduire vers la détention, puis vers les camps, un des responsables nazis a compté. Il est arrivé à 6. Et il s'est tourné vers le patriarche, le père, dans sa belle barbe, et il lui a dit « Alors, vous êtes 6 ?» Et ce père a répondu paisiblement « Non, nous sommes 7, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. » Quelqu'un écrit ceci, c'est toujours sur la faiblesse et l'humiliation de l'homme, non pas sur sa force et son assurance que Dieu décide de bâtir son royaume. Il peut se servir de nous non seulement en dépit de notre insignifiance, de notre impuissance et de nos infirmités qui nous rendent incompétents, mais précisément à cause d'elles. C'est là une découverte palpitante à faire, qui peut révolutionner notre conception de l'œuvre missionnaire. Et là, je ne peux m'empêcher, parce que alors ça c'est un grand classique et tellement encourageant, celui de la conversion du prince des prédicateurs Spurgeon. Et quand on sait encore aujourd'hui, quoique mort, il parle encore, comment Dieu utilise aujourd'hui toutes les prédications écrites, les livres de Spurgeon. J'ai là aussi donc écrit à ce sujet dans mon livre consacré à Élie au bord du torrent de Kérit. C'est donc à l'âge de 15 ans que Spurgeon a connu le grand tournant de sa vie. C'était un dimanche matin. Il y avait une tempête de neige terrible qui oblige le jeune homme qui se rendait à l'église a entré dans une petite chapelle située dans une ruelle obscure et dans laquelle une douzaine de personnes étaient rassemblées. Et il raconte ce qui s'est passé. Le prédicateur ne put venir ce matin-là, bloqué par la neige, je suppose. Finalement, un homme d'une grande maigreur... un cordonnier ou un tailleur ou quelque chose de cette sorte, monta en chair pour prêcher. Il faut bien sûr que les prédicateurs soient instruits, mais cet homme, lui, était vraiment primaire. Il ne pouvait pas sortir de son texte pour la simple raison qu'il n'avait pratiquement rien d'autre à dire. Le texte disait « Regardez à moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Oh, il ne prononçait même pas les mots correctement. Mais cela n'avait pas d'importance. Il me semblait qu'il y avait dans ce texte une lueur d'espoir pour moi. Quand il eut réussi à délayer son discours pendant environ 10 minutes, il arriva au bout de ses ressources. Alors je vais prendre la suite ailleurs. Donc, quand il eut parlé, il arrive au bout de ses ressources, et du haut de la chair, il me vit, et comprit que j'étais étranger à la petite communauté. « Jeune homme, dit-il, vous paraissez bien misérable. » Effectivement, je l'étais, mais je n'étais pas accoutumé à entendre des remarques personnelles du haut de la chair. Il continua pourtant, « Vous serez toujours misérable, misérable dans la vie, misérable dans la mort, si vous n'obéissez pas maintenant et regardez à Christ maintenant. Si vous le faites en cet instant, vous pouvez être sauvé. » Peu à peu, je compris. Le nuage s'effaça, Les ténèbres s'éloignèrent et vint le moment où je vis le soleil. J'aurais pu saluer ce moment, célébrer avec enthousiasme le sang précieux de Christ et la simple foi qui regarde à lui seul. J'ai simplement abandonné mes propres efforts, je crus en Christ, en celui qui prit sur lui tous mes péchés. Oh, si seulement je l'avais su plus tôt, et il avait 15 ans, hein, et pourtant il aurait souhaité que ce soit encore plus tôt. Voyez donc, une tempête de neige, une toute petite chapelle, un tout petit auditoire, un prédicateur hors norme, qui en plus ose l'interpeller directement. Et puis Dieu se choisit un homme pour accomplir une œuvre. Je crois qu'il n'est pas de jour dans la vie, dans le ministère de Spurgeon, où une personne ne se soit pas convertie. Or, j'ajoute maintenant quand même que Spurgeon a énormément souffert par la suite. S'il est un homme de Dieu qui a touché le cœur de la faiblesse, tout au long de son ministère, c'est Spurgeon. Il avait hérité de ses ancêtres une maladie très douloureuse, la goutte, n'est-ce pas, dont d'ailleurs il est mort finalement. Et sa maladie a joué énormément sur son psychisme, n'est-ce pas ? Si bien qu'il a eu des temps de dépression absolument épouvantables. Alors vous savez, quand on me dit, hein, les dépressifs c'est un peu comme les lépreux, j'ai dit, mais regardez voir dans l'histoire passée ceux dont Dieu s'est servi. J'ai là un extrait de son histoire sous une plume remarquable. L'auteur dit ceci, « Les prédicateurs chrétiens sont connus pour envier les succès de Charles Spurgeon. » Mais probablement peu sont au courant des infirmités que la providence divine lui infligea. Spurgeon connut de longues périodes de dépression. C'est à l'âge de 24 ans, en 1858, que la dépression l'atteignit pour la première fois. Elle ne lui laissa plus guère de répit jusqu'à sa mort. Il reconnut qu'il lui arrivait de pleurer une heure entière. Âgé de 33 ans, sa femme, Susanna, devint pratiquement invalide et n'entendit pour ainsi dire jamais son mari prêcher durant les 27 dernières années de son ministère. Spurgeon souffrait de gouttes, de rhumatisme, de néphrite chronique. Il passa d'ailleurs un tiers de ses 22 dernières années de ministère éloigné de la chair, soit parce qu'il souffrait, soit parce qu'il était en convalescence, soit parce qu'il prenait ses précautions contre le retour de ses maladies. Ajoutons à cela qu'il dut essuyer toute sa vie les moqueries et la médisance du public. Parfois elles étaient le fait des incroyants, mais les attaques provenaient souvent des autres prédicateurs. Vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, hein ? On peut se demander comment Spurgeon lui-même interprétait ces diverses expériences de souffrance et d'affliction. Alors écoutez-le lui. Il dit ceci, « Il faut utiliser les instruments. » Mais leur faiblesse doit se manifester clairement. La gloire due à Dieu ne peut se diviser, ni l'honneur qui revient à l'agent divin. L'homme doit se dépouiller lui-même et ensuite être rempli du Saint-Esprit. Je témoigne personnellement que ceux que le Seigneur honore en public doivent souvent endurer un châtiment secret ou porter une croix particulière de peur qu'ils ne trouvent moyen de se glorifier eux-mêmes et ne tombent ainsi dans les pièges du diable. Nos dépressions nous murmurent à l'oreille ces messages humiliants mais salutaires. Elles nous rappellent d'une manière qui ne laisse planer aucun doute possible que nous ne sommes que des hommes fragiles, faibles et sur le point de défaillir. Mes amis, combien nous sommes loin aujourd'hui de cette manière de penser les choses dans notre marche avec Dieu et dans notre service pour Dieu. Pourtant, on a le livre des juges, n'est-ce pas ? Pensez à l'histoire de Gédéon, hein. Je crois qu'ils étaient 135 000 contre Gédéon. Hein. Et là où Gédéon devait soi-disant avoir une grande armée, et Dieu lui dit « Ouh là là, ils sont trop nombreux, le peuple pourrait en tirer gloire. Non, non, il faut réduire tout ça, n'est-ce pas ? On passe 30 000 et finalement, qu'est-ce qui reste ? 300 contre 135 000. 35 000. Il y a un autre texte qui m'a souvent impressionné, c'est, je crois que c'est dans Deutéronome 20. Deutéronome 20, les questions d'exemption du service militaire, c'est ça. Deutéronome 20. Dans les premiers versets. Deutéronome 20. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, et quand on sait ce que Dieu dit dans les Écritures des chevaux et des chars, hein, comment il disait au roi, hein, les rois ne doivent pas multiplier les chevaux et les chars. Signe de puissance humaine, n'est-ce pas ? Signe de puissance humaine. Alors que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus à point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, tu rassembleras le maximum de soldats, c'est ça ? Ah, mes amis, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Et les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est pas encore établi ? Qu'il s'en aille ! Exactement la mentalité inverse, n'est-ce pas ? On s'attendrait à ce qu'ils disent, ben, si le peuple est nombreux, si l'armée ennemie est nombreuse, il faut avoir le maximum d'hommes. Et on est crème ici, hein ? On est crème. Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qu'est-ce qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne le prenne. Et les officiers continueront à parler au peuple et diront, qu'est-ce qui a peur ? Je trouve ça fantastique. Il n'y a pas une armée au monde qui fait ça, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui a peur ? Et manque de courage. Mais qu'il s'en aille, qu'il retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Et quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. On se demande qui restait. Moi, je trouve ça fantastique. Mais c'est ça la sagesse de Dieu, finalement, et folie des hommes, hein, quand on réfléchit. Combien cela fait du bien de remettre de temps en temps les pendules à l'heure, hein, dans nos vies. Chapitre 3, verset 9, on approche du bout du texte. Chapitre 3, verset 9, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Ça fait partie donc de la porte ouverte. Dieu s'occupe lui-même des ennemis déclarés de cette Église. C'est lui qui s'en charge. Il s'occupe de cette communauté juive qui affirme que le royaume des cieux lui est exclusivement réservé. Nous sommes les fils d'Abraham. Vous connaissez, hein, cette habitude qu'avaient les juifs du temps de Jésus de dire que c'était pour eux exclusivement. Il s'occupe de ceux qui méprisent et persécutent l'Église de Jésus-Christ à Philadelphie. Il s'occupe de ceux qui la considèrent comme une secte pernicieuse. Il s'occupe de ceux qui croient pouvoir fermer la porte du royaume aux païens. Et il donnera des fruits étonnants à son travail missionnaire, puisque quelques-uns de ceux-là, précisément, seront gagnés et converti à Christ. Alors, avant d'en arriver à quelques mots de conclusion, deux remarques. Dieu est souvent contraint de nous réduire à l'impuissance pour que nous apprenions à compter uniquement sur lui et que sa toute puissance puisse se déployer dans notre faiblesse. Georges Müller a écrit ceci. Notre faiblesse donne l'occasion à la puissance du Seigneur Jésus-Christ de se manifester. Cet être béni ne nous laisse jamais, ne nous abandonne jamais, jamais. Plus notre faiblesse est grande, plus il est proche de nous pour manifester sa force. Plus nos besoins sont grands, plus il se manifeste comme notre ami. C'est ce que je vis depuis plus de 70 ans. Plus l'épreuve est grande, plus la difficulté est grande, plus l'aide du Seigneur est proche. Nous n'avons donc qu'à répandre notre cœur devant lui, et l'aide viendra en son temps et à sa façon. Un jour, un sage enseignant de la Bible a dit ceci: « Tôt ou tard, Dieu conduira les personnes autosuffisantes au point où elles n'auront plus d'autres ressources que lui. Plus de force, plus de réponse, rien que lui. Sans l'aide de Dieu, elles sont perdues. » Et pour appuyer ces dires, cet enseignant a raconté l'histoire d'un homme désespéré qui avait confessé à un serviteur de Dieu: « Ma vie va vraiment mal !» Et le serviteur de lui dire: « Mais à quel point ?» Et cet homme d'enfouir sa tête dans ses mains et de répondre en gémissant: « Je vais vous dire à quel point. Tout ce qui me reste, c'est Dieu. » Et le serviteur de dire: « Bien, je suis heureux de vous assurer qu'une personne qui n'a rien que Dieu a tout ce qu'il faut pour remporter une grande victoire. » Notre suffisance et notre entêtement à vouloir dépendre de nos propres forces constituent des entraves à la foi. Par conséquent, avant que nous puissions avoir une confiance absolue en Dieu, il doit nous réduire à l'impuissance. Son intervention la plus puissante se produit généralement à l'heure de notre plus grande faiblesse. Mais vous savez, nous sommes tellement bombardés dans l'Église de Jésus-Christ de toutes ces idées dominantes du monde, qui ne vit qu'avec des rapports de force, n'est-ce pas, des rapports de puissance, la lutte du loup contre le loup, l'homme est un loup pour l'homme, etc., n'est-ce pas, que peu à peu on adopte ce système de pensée dans l'Église de Jésus-Christ, dans nos relations avec les autres. Et c'est ce qui fait que nous n'acceptons pas que Dieu nous réduise à l'impuissance. Nous luttons contre Dieu, et luttons contre Dieu, nous luttons contre la bénédiction de Dieu. Nous l'empêchons de nous placer dans les conditions où il va pouvoir enfin travailler dans nos vies et à partir de nous. Dans mon livre « Fidèle quoi qu'il en coûte », j'évoque les personnages principaux de ce beau livre. Il faudrait qu'il soit vraiment publié, Verdoyant malgré la sécheresse. Je sais pas si est-ce que quelqu'un l'a lu ici, Verdoyant malgré la sécheresse? C'est un vieux livre d'Isobel Kuhn, je l'ai lu, je ne sais pas, 5, 6, 7 fois, je le relis de temps en temps. C'est un livre qui raconte l'histoire émouvante de la sortie de la Chine communiste entre 50 et 52, du dernier couple missionnaire de la mission intérieure de la Chine. Jusque-là, il y en avait une quantité assez impressionnante, n'est-ce pas? Et donc, ce récit, la Verdoyant malgré la sécheresse, se déroule presque entièrement dans un petit logis d'une bourgade blottie dans une haute vallée montagneuse, à Wangyan, à 3000 mètres d'altitude, aux confins des terres mystérieuses de l'Asie centrale, dans la province du Kansu. Il s'agit donc d'Arthur et Vilda Matthews avec leur petite fille Lila. Et ils sont venus avec un fardeau de Dieu pour l'évangélisation de cette région. Et ils arrivent juste au moment où le rideau de bambou est en train de s'installer, n'est-ce pas ? Et très rapidement, ils vont se retrouver seul, n'est-ce pas, par rapport à tous leurs collègues qui ont réussi à rentrer au pays. Et là, les autorités vont leur interdire de travailler, d'avoir des contacts avec la population locale. Ils vont leur faire subir un véritable supplice moral fait de brimades, d'accusations mensongères, de promesses fallacieuses. Et leur situation va s'aggraver. De plus en plus, un véritable supplice de Tantale. On va leur dire, demain vous aurez votre visa. Ils vont stationner des heures et des heures devant le bureau, dans le froid, etc., avec une nourriture absolument épouvantable. Et puis, on leur rit au nez en disant que ce n'était pas vrai. Et on multiplie ce genre de cruauté, jusqu'à ce que finalement, à l'issue de plus de deux longues années, ça a duré deux ans, n'est-ce pas ? Ils ont enfin reçu leur visa de sortie pour regagner le monde libre. Et Arthur Matthews a écrit de nombreuses lettres qui sont dans ce livre. C'est intéressant, n'est-ce pas, d'avoir leur propre témoignage personnel de leur lutte. Et il écrit notamment ceci. Le Seigneur a besoin de nous montrer parfois non seulement la puissance de l'adversaire, mais aussi la faiblesse de nos cœurs. Les batailles ne sont pas gagnées par la force, par les actions d'éclat, mais par la faiblesse totalement faible qui refuse de faire quoi que ce soit pour elle-même, mais qui se confie en la fidélité de Dieu, même quand cette confiance semble folie. Ça, ce sera notre première remarque forte dans le cadre de cette fin d'étude. Là, j'ajoute, je l'ai mis en rouge, je l'ai ajouté après. C'est un humble témoignage personnel. Ce que je vais vous dire m'a été raconté, non pas témoignage de troisième ou quatrième main, mais témoignage de première main. C'est celui qui a été le directeur de l'Institut biblique Emmaüs, Frank Horton, pendant pas mal d'années. Il a d'ailleurs commencé à être professeur dans cet institut une année avant mon arrivée comme étudiant. Il est devenu sous-directeur de l'école juste après mon départ. Un homme de Dieu remarquable qui vit toujours, qui habite en Suisse, qui continue à servir le Seigneur. Maintenant, il est âgé. Et qui était donc là à la cérémonie de remise des diplômes en fin juin 68, où nous étions quelques étudiants à avoir terminé nos études. Nous devions donc donner notre témoignage personnel sur la manière dont nous avions vécu ce temps d'études, ce que cela nous avait apporté, etc. Et Frank Horton m'a dit lui-même que pendant que je donnais mon témoignage, un professeur que je ne citerai pas par respect pour lui, mais un éminent professeur, connu dans le monde francophone pour ses ouvrages, etc., mais il y en a un certain nombre, s'est tourné vers lui et lui a dit « Oh, Maurice Decker, je lui laisse une année et demie, peut-être deux. Je bénis Dieu parce qu'il s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. » C'était en 68, ça fait 34 ans que ça dure, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que j'avais eu une santé extrêmement fragile, j'ai eu d'énormes problèmes de santé pendant mes études. Toute ma deuxième année d'études, je l'ai pratiquement passée entre un lit, une chaise longue, l'hôpital, etc., n'est-ce pas ? Oui, mais heureusement que Dieu ne fait pas les mêmes calculs que les hommes, hein. Et c'est quelque chose qui s'est répété si souvent dans l'histoire. Et moi, je peux vous dire, mon épouse le sait, Tina le sait. Combien de fois j'ai dit, mais Seigneur, c'est un miracle si on m'avait dit, il y a 34 ans, ce que Dieu me demanderait de faire. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu travaille dans la faiblesse humaine. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Moi, je pense que Dieu me tient debout, parce qu'il est fort et que je suis faible, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, voyez. Tout le reste n'a aucun intérêt et ne mérite pas d'être même énoncé. Alors il faut quand même faire une deuxième remarque ici. Parce qu'il y a quand même un danger, nous sommes des gens tordus. Et nous serions en danger cet après-midi d'exalter la faiblesse en tant que telle. Nous pourrions être en danger, en quelque sorte, de diviniser à quelque part, d'idolâtrer la faiblesse. Parce qu'on le voit parfois. Parce que la Bible parle de la faiblesse, hein, on peut se vanter d'une certaine faiblesse et finalement la mettre sur un piédestal. Alors que la faiblesse n'a pas de vertu morale, elle n'a pas de valeur spirituelle en elle-même. Il en est de même de la pauvreté, n'est-ce pas ? D'une part, c'est vrai, Dieu a pu souvent dans l'histoire beaucoup mieux atteindre les cœurs des pauvres que les cœurs des riches. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et on le comprend, n'est-ce pas ? Mais faisons attention. Hein ? C'est toujours la même chose. Pensez d'ailleurs à Laodicée. Le problème de Laodicée, c'était sa mauvaise faiblesse. La tiédeur est une mauvaise faiblesse. Il est des faiblesses coupables. Je vais vous faire une petite parabole. Qu'est-ce que c'est ? C'est une clé de voiture. Cette clé de voiture va nous permettre tout à l'heure de déclencher une puissance qui va permettre à notre voiture de nous emmener chez nous. Moi, j'appelle ça la clé de la foi dans les Écritures. Bien sûr, elle n'a aucune valeur en elle-même, puisque la foi est un don de Dieu, l'image vaut ce qu'elle vaut. Mais grâce à cela, notre faible voiture va devenir forte. Une puissance va se manifester en elle qui va nous permettre d'atteindre notre domicile. Maintenant, je suis désolé, mais notre voiture a un problème. Et si tout à l'heure je vais ouvrir les portes et que j'utilise ceci, notre voiture ne va pas démarrer. Et je peux faire ça pendant toute la semaine qui vient, elle ne démarrera pas. Et en réalité, voilà ce que je vais devoir utiliser tout à l'heure. Ou mon épouse. Voilà ce qui va permettre au problème d'être réglé. Tout simplement parce que nous avons un problème qui fait que notre garagiste a presque perdu tous les cheveux qui lui restaient ces 15 derniers jours. Nous avons un problème de déperdition d'énergie à une vitesse phénoménale dans notre batterie. Et toutes les pièces changées, alternateurs et autres, les unes après les autres, n'ont pas encore solutionné le problème. Au point que maintenant, nous en sommes arrivés à un point où quand nous nous arrêtons et arrêtons le moteur, il nous faut aussitôt débrancher la batterie. Sinon, quelques minutes après, plus de batterie. Et nous avons eu plusieurs fois la panne. Alors, vous voyez, notre voiture est faible, mais sa faiblesse est coupable. Vous voyez la différence ? Sa faiblesse est coupable. Et d'ailleurs, la clé ne sert à rien, voilà l'instrument. Voyez la différence ? Il faut d'abord régler un problème. Il y a une faiblesse qui exalte le Seigneur et qui permet, dans notre confiance en lui, d'avancer à fond, en s'appuyant sur la puissance de Dieu. Il y a une faiblesse problématique, une sorte de déperdition, pardon de le dire ainsi, de l'énergie d'en haut, de la puissance de la personne du Saint-Esprit dans notre vie. Et il faut régler ce problème de perte d'énergie. Parce que là, c'est une faiblesse qui est drôlement problématique. Au point que même, ça ne sert plus à rien. Et vous avez des gens qui, même des croyants, qui ont la foi. Le problème, ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas régler le problème dans son fond. Ils ne veulent pas de l'action du garagiste dans leur vie. Ils ne veulent pas que certaines pièces de leur moteur soient changées. Donc je tenais à le préciser. Puisqu'au cœur de la vie de l'église de Philadelphie se cache une faiblesse sur laquelle Dieu s'appuie, mais ce n'est pas une faiblesse qu'on exalte, ce n'est pas une faiblesse, je dirais, pécheresse, liée à la présence d'une culpabilité qui ôte toute possibilité d'action au Seigneur. La vraie valeur de l'homme faible réside non dans ses capacités, mais dans sa foi. La valeur spirituelle de l'église de Philadelphie, c'était sa fidélité dans la faiblesse. Alors vous arrivez, chapitre 3, verset 10, on arrive au bout. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Quelle promesse ! Dieu garde ceux qui gardent sa parole, nous dit ce texte. Parce que tu as gardé, je vais te garder. Dieu garde ceux qui gardent sa parole. Il gardera cette église faible, mais dépendante de lui, fidèle à sa parole, au sein de cette épreuve redoutable. Alors, c'est intéressant parce que là, le texte contient des trésors. Tout d'abord, le monde entier, c'est littéralement la terre habitée, le mot qui a donné œcuménisme, l'œcuménée, le mot est là. Vous savez qu'il est plusieurs fois dans les Écritures. En fait, l'œcuménisme, c'est la globalité du monde, hein, toute la terre habitée. Alors on a pris ce terme grec pour lui donner un sens plus spécifique d'unité mondiale au niveau spirituel. Alors le voilà le terme, hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette expression « pour éprouver les habitants de la terre ». L'expression « les habitants de la terre » figure 10 ou 11 fois dans l'Apocalypse. Et si vous analysez les 10 ou 11 textes, vous allez voir que dans le contexte, systématiquement, c'est une expression qui a un sens négatif. Ça ne veut pas dire tous les habitants de la terre, croyants et non-croyants. Ça veut dire les habitants de la terre par opposition aux habitants du ciel, aux citoyens célestes, c'est-à-dire à nous les enfants de Dieu. Vous avez d'ailleurs deux textes qui le disent sans la moindre ambiguïté. Je vais les retrouver, 13.8 et 17.8, 13.8, avec l'Antichrist et le faux prophète. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Qui sont ces habitants de la terre? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Notre nom, à nous, il est écrit, on l'a vu, hein, dans les cieux. Alors il y a ceux qui n'ont pas leur nom écrit, il y a ceux qui ont leur nom écrit. Ceux qui n'ont pas leur nom écrit, ce sont les habitants de la terre. Les autres, ce sont les habitants du ciel. Et ça, c'est un des grands thèmes du livre de l'Apocalypse. Vous retrouvez la même pensée au chapitre 17, verset 8. 17, verset 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, et vous remarquez, répétition, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, etc. Voyez, vous avez la répétition pour qu'on soit bien au clair, hein, opposition, contraste saisissant entre les habitants de la terre et les citoyens des cieux. Mais j'ai là recueilli le témoignage des croyants en Chine. Et vous savez combien c'est difficile, notamment pour ceux qui ne sont pas enregistrés, pour les clandestins, n'est-ce pas? Et un biographe écrit ceci, « Quand il n'y avait plus d'espoir à vue humaine, les chrétiens des églises de maisons chinoises ont vu Dieu révéler son pouvoir et sa suprématie dans le cours des événements. La puissance de Dieu ne s'est pas manifestée quand l'Église était forte du point de vue du monde, mais quand elle était faible, méprisée et rejetée. Les chrétiens ont constaté avec joie la protection divine dans les moments de crise. » Ça, c'est Philadelphie. Dieu promet de s'occuper des siens. Alors, une question se pose. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Est-ce que l'Église serait totalement épargnée par cette épreuve? Alors, vous avez certains croyants qui disent que cette tentation qui va venir sur le monde entier est la grande tribulation. Et que donc l'Église de Jésus-Christ va totalement échapper à la grande tribulation, et il s'appuie en particulier ici sur le texte grec qui dit « Je te garderai aussi », on peut le traduire ici, ainsi, « de l'heure de la tentation », parce que vous avez une petite préposition qui en grec a ce sens, mais je suis désolé, elle n'a pas que ce sens. Et ça, c'est toute la complexité, parfois, de certains textes des Écritures, où on n'a pas le droit, arbitrairement, de prendre une définition d'un mot, si ce mot en a deux, trois, quatre, cinq, six, et il se trouve que « ek », comme tu le dis, en grec, a plusieurs sens. Il a le sens de « hors de » ou « de », mais il a aussi le sens de « à », il a le sens de « à travers », Il a le sens de durant, il a le sens de pendant, il a le sens de parmi. Et croyez-moi, je l'ai vérifié de mes propres yeux, c'est pas simplement quelque chose que je suis allé lire dans n'importe quel bouquin, n'est-ce pas ? Et je dois dire que je ne vais pas me battre avec ceux qui disent que l'Église ne participerait pas du tout à la grande tribulation, mais c'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Autant je crois à l'existence d'un millénium, autant je suis ce qu'on appelle un prémillénariste, autant je suis prudent face à un tel texte. D'ailleurs, c'est très simple. Écoutez, vous ne croyez pas qu'il y a des croyants qui sont dans une sacrée tribulation en ce moment et qui ne se posent absolument pas la question de savoir si c'est la vraie, si c'est la fausse, si c'est la grande ou la petite? Ça, c'est une question qu'on se pose chez nous, parce que nous ne connaissons pas encore une persécution ouverte. Mais si demain on vient nous chercher dans nos maisons, nous torturer en prison, croyez-moi qu'on va, on va cesser de se poser ce genre de questions. Et puis il y a quand même un texte qui pour moi aussi a été parfois un petit peu forcé dans son sens, c'est 2 Thessaloniciens 2, n'est-ce pas, qui donne des précisions à ce sujet. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 et suivant. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, 2 Thessaloniciens 2, 1, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, par quelque esprit, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et je lis simplement la suite, et moi je la comprends tout simplement la suite. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire se dressant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre Paul, il me semble, d'une manière toute simple, dit ici, écoutez, pas d'inquiétude. Il y aura en tout cas un point de repère évident qui montrera l'imminence du retour de Jésus-Christ pour que l'Église soit enlevée auprès de lui, c'est l'avènement de l'Antichrist. Et moi, je suis de ceux qui prennent ce texte de la manière la plus simple qui soit. Moi, je crois qu'on est en train de le voir percer, là. Il va se présenter. Et je suis tout à fait persuadé que nous pouvons très bien voir son portrait, nous, disciples de Jésus-Christ, voir les premières choses se passer. Moi, je ne sais pas quand ça va se passer. C'est pas pour autant que je sais quel est le moment exact. Mais ce texte est simple. Et me laisse croire qu'après tout, ce qui est important, ce n'est pas d'être épargné de la grande tribulation, c'est d'être soutenu dedans. Ce qui était important pour les compagnons de Daniel, c'était pas d'être épargné de la fournaise ardente, mais c'était d'avoir le Fils de Dieu à leur côté dedans. Et moi je crois que ça, c'est le meilleur. Que le Seigneur veuille nous épargner bien des épreuves, il le fait aussi. Mais il ne nous les épargne pas toutes, bien loin de là. Et après tout, l'essentiel, c'est qu'il soit avec moi dans les situations difficiles. Et si je dois vivre une partie de la grande tribulation, l'essentiel, c'est d'être gardé à l'heure où cette épreuve, de manière officielle et claire, va fondre sur le monde. Voilà, je tenais simplement à vous le dire aussi, d'ailleurs, c'est une manière d'interpréter que de dire qu'il s'agit de la grande tribulation. Le texte ne le dit pas tel quel. J'ai noté simplement que, tout d'abord, cette épreuve, c'était dans un contexte immédiat, les persécutions commencées par les Juifs et poursuivies par les empereurs romains. Faut pas oublier que Philadelphie a souffert. Et que Philadelphie allait encore souffrir. Et le plus grand encouragement que l'église de Philadelphie pouvait recevoir du Seigneur, c'est qu'ils lui disent, tu sais, tu vas encore souffrir comme à Smyrne, mais je peux t'assurer que dans cette situation qui va secouer ton monde en quelque sorte, tu seras soutenu. Tu seras soutenu. C'est ça le plus important. Ensuite, il y a eu les grandes hérésies, je ne vais pas en parler maintenant, gnostiques, toutes les tentations subtiles et dangereuses de grands courants déviants par rapport à la parole de Dieu qui ont fait énormément de dégâts dans le monde de l'Église de Jésus-Christ durant les premiers siècles. Hein. Et là encore, c'est bien de savoir que face à ces attaques au niveau de la parole de Dieu, l'Église pouvait être gardée dans la mesure où elle s'attachait à la parole de Dieu. Et puis donc, cette application la plus œcuménique au sens biblique du terme, ce serait l'avènement de l'Antichrist avec son programme diabolique d'iniquité mondiale porté à son paroxysme, la grande tribulation, cette économie effroyable où les hommes devront se plier sous le joug de la bête. Le retour de Jésus-Christ sera précédé de temps très difficiles pour la terre entière et pour les croyants. Alors, moi je suis toujours très prudent dans ce domaine. Autant dans les grandes lignes, je suis infiniment respectueux dans des Écritures, autant là où le texte permet plusieurs possibilités de compréhension, je dis, soyons prudents. Soyons prudents. Et l'essentiel, c'est que Dieu me protège dans mes situations où je serai peut-être persécuté. Savoir qu'il est avec moi. Et puis même s'il doit me reprendre dans ces situations, l'essentiel, c'est de savoir où je vais. Il sera avec moi pour la traversée de la dernière vallée, pour le rejoindre et être avec lui pour l'éternité. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Puis vous avez dans la conclusion ce 3:11, n'est-ce pas, qui est si beau. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Affirmation forte, reprise dans la conclusion de l'Apocalypse. Parole d'encouragement, de consolation, d'espérance, très précieuse dans les jours d'épreuve. L'horizon n'est pas bouché. Je viens bientôt. Mais le petit mot grec veut dire aussi je viens rapidement. Je viens rapidement. En un clin d'œil, en un atome de temps, n'est-ce pas? Ça veut dire sois vigilant, ne te laisse pas griser par ce message, ne t'endors pas sur tes lauriers. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je suis heureux qu'on termine là-dessus. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ne pas se laisser voler sa couronne. Il était d'ailleurs aussi question de couronne pour l'église de Smyrne, hein, pour les deux églises fidèles. Il est question de couronne. Et là, une remarque s'impose, c'est cette harmonie entre la fidélité active du Seigneur qui dit « je te garderai » et la fidélité de ses enfants « retiens ce que tu as ». Dieu nous garde, mais nous sommes responsables d'être vigilants. Il n'y a jamais dans les Écritures d'incitation à la passivité à cause de la fidélité de Dieu pour nous garder. Je te garde, mais garde-toi. Toujours cette double dimension. Je fais tout, mais pas de passivité de ta part. Et j'ai ici cette petite anecdote d'histoire authentique. Il s'agit du comte Pierre de Burgos, qui revint un jour de la chasse, donc en Espagne, dans le massif pyrénéen, qui revint un jour de la chasse si fatigué que, en se retirant dans sa chambre, il donna à ses serviteurs l'ordre rigoureux de ne le déranger dans son sommeil sous aucun prétexte. Or, ce jour même, le roi Alphonse d'Aragon était mort sans héritier et le conseil de la ville, immédiatement réuni, avait résolu d'offrir la couronne au comte Pierre. Deux délégués lui furent envoyés le même soir. Les serviteurs du comte estimèrent que leur devoir était d'obéir à l'ordre sévère de leur maître. Aussi renvoyèrent-ils les délégués en leur disant qu'ils avaient l'ordre de ne recevoir personne jusqu'au lendemain. Les envoyés s'en retournèrent assez vexés, d'autant plus qu'ils étaient des gens considérables et rapportèrent la chose au conseil. Celui-ci décida alors d'offrir la couronne à un autre grand. Le comte Pierre avait ainsi perdu sa couronne en dormant. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te ravisse ta couronne. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que Dieu nous bénisse dans notre marche avec lui, n'ayant pas peur de la faiblesse qui le glorifie. J'ai noté tout à l'heure, avant de prendre la parole, l'agneau et le lion. L'agneau, c'est la faiblesse. D'ailleurs, le texte grec de l'Apocalypse ne dit même pas l'agneau, c'est l'agnelet. C'est le petit agneau. Et de l'autre côté, le lion. Voyez, même chez le Seigneur Jésus. L'agneau, c'est le lion de la tribu de Juda. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un agneau? Mais quelle puissance! Quelle puissance manifestée dans la faiblesse de cet agneau lorsque il a été sacrifié pour chacun d'entre nous. Comment finalement il a été intronisé par sa résurrection, le lion de la tribu de Juda. La faiblesse qui manifeste la puissance de Dieu par le salut de ceux qui croient.